Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous.
Je suis Nabil Wakim, je suis journaliste au Monde et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France, dans lequel je raconte que moi je suis né au Liban, à Beyrouth, et que je suis venu en France quand j'avais 4 ans, enfin mes parents sont venus en France quand j'avais 4 ans, et que je parlais l'arabe à cette époque-là, et que j'ai perdu l'arabe en cours de route entre mes 4 ans et mes 40 ans. Et donc dans le livre, j'essaye de comprendre pourquoi, est-ce qu'on peut perdre sa langue maternelle, est-ce qu'on peut la récupérer, est-ce qu'elle est cachée dans un coin du cerveau et il y a un bouton sur lequel il faut appuyer. La réponse est non, en fait il faut juste travailler. Est-ce que c'est la faute de mes parents, est-ce que c'était la faute de la République, est-ce que c'était ma faute à moi qui suis fainéant? Un peu tout ça peut-être et puis tout ce dont on a parlé là, donc j'essaye aussi dans le livre d'enquêter sur pourquoi il n'y a pas beaucoup de classes d'arabe en France, quels sont les blocages, pourquoi dans l'éducation nationale c'est compliqué, et puis sur les représentations qu'il y a en France de la langue arabe, de l'identité arabe en général, les amalgames qui sont faits entre le monde arabe, l'islam, le fondamentalisme, le terrorisme, etc. Et comment à cause de tout ça la langue arabe est perçue par une partie de la population en France comme une langue est mal perçue par une partie de la population et victime de stéréotypes racistes avec lesquels je ne suis pas d'accord.
J'ai beaucoup de mal avec mon fils parce qu'on a du mal à lui inculquer en fait l'arabe. Mes parents sont d'origine marocaine et c'est vrai que moi je suis mariée aussi avec un Marocain. Nos régions sont un petit peu différentes parce qu'on a le dialecte mais qui ne se rejoint pas tout à fait. Donc au début, on s'est dit, qui va lui apprendre l'arabe? Et on a eu du mal. Et là, il a 11 ans, et on regrette parce qu'on essaye de lui apprendre l'arabe. Il connaît quelques petits mots. Donc là, j'essaye de lui parler à la maison, mais c'est vrai que... Et j'ai essayé justement de le mettre justement dans une école pour qu'il apprenne l'arabe. Mais c'est vrai que, comme on parlait tout à l'heure, c'était la mosquée.
C'est ça, quand on dit l'arabe, c'est la mosquée, c'est
oui, exactement. Bon, il y avait une prof d'arabe, il faisait un petit peu de religion, c'était une heure sur la demi-journée. Mais le problème, c'est que c'était la difficulté, moi, qui l'a rencontré, c'est qu'il y avait plusieurs niveaux. Lui, comme il ne connaissait rien, il était avec des enfants déjà qui parlaient un petit peu arabe à la maison. Et c'est vrai qu'il s'ennuyait énormément, il avait du mal, et puis après...
Moi j'étais un peu comme ça quand j'étais adolescent, mes parents ils voulaient absolument à un moment me donner des cours d'arabe, mais en fait c'était le truc que j'avais pas envie de faire, j'avais envie de parler français, après la musique que j'écoutais c'était en anglais donc j'avais envie de parler anglais, enfin voilà, et du coup c'est aussi ça qui est pas facile, c'est comment on fait pour donner envie à des enfants, sans les obliger, parce qu'en fait quand on oblige trop, des fois ça se retourne contre nous, parce que du coup ça devient le truc qu'on veut surtout pas faire quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. La bonne nouvelle, moi, ce que j'ai compris en allant voir les spécialistes de la langue, des psychologues, en écrivant mon bouquin, c'est qu'en fait, c'est jamais trop tard. C'est-à-dire que même un enfant qui a 11 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans, même nous, qui sommes déjà vraiment très vieux, en fait, on peut toujours apprendre. C'est parfois plus difficile, mais en fait, c'est possible. Après, c'est vrai que ça demande quand même de la motivation. Il faut que lui, il y trouve un intérêt et que ça lui importe. Après, peut-être souvent, ça passe aussi par les gens qu'on connaît, les copains, si dans l'entourage, il y a des gens qui parlent. Moi, je sais que c'est beaucoup revenu pour moi quand j'ai des amis libanais qui ont habité vraiment à côté de chez moi. Et du coup, on s'est mis à parler un petit peu plus et nos enfants ont le même âge. Donc, ça motive aussi, ça crée un environnement. Et puis, les vacances aussi, les voyages, si on peut des fois revenir. Et après, se pose la question au collège, au lycée. Ce qui est difficile, c'est que souvent, les enfants, quand ils arrivent dans ces classes-là, c'est des cours d'arabe littéraire, comme on disait tout à l'heure. Et donc, un peu modernisé pour intégrer un peu le dialecte et tout. Mais quand même, moi, je suis allé dans plusieurs cours d'arabe. J'étais il n'y a pas longtemps à Argenteuil, dans le 95. Tous les élèves, ils disaient, c'est quand même différent de l'arabe que je parle chez moi. C'est beaucoup plus difficile. Je croyais que j'allais arriver dans la classe et que ça allait être facile. Et en fait, l'arabe qu'on parle à la maison et celui de l'école ou des médias, c'est pas le même, donc ça c'est sûr qu'il y a une difficulté en plus, quoi. Mais c'est pas impossible, c'est pas facile parce que on peut toujours obliger les enfants, mais à un moment donné ça doit aussi venir d'eux et de leur et la question, je trouve, c'est comment on fait pour mettre les enfants dans la situation dans laquelle ils peuvent choisir, ils peuvent comprendre ce qui est important, et derrière, s'ils ont envie et s'ils sont motivés, ils peuvent apprendre. Et je vois bien, il y a des parents aussi qui disent, moi je veux absolument que mon fils ou ma fille parle l'arabe, c'est obligatoire, etc. Et l'enfant ne veut pas, et en fait ça crée une situation de tension, et,
et de rejet. Et donc, c'est pas bon non plus. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Quoi. Enfin, voilà, je ne suis pas non plus pour qu'on...
Maintenant que c'est ma personnalité, là, le petit, quand il va pas aimer apprendre l'arabe, parce qu'il est petit, il n'a pas encore sa personnalité. Il est en train de chercher sa personnalité. Il est en train de voir ici la France. Il aime la France parce qu'il est d'origine française, comme moi par exemple. J'aime la France. Et avec le, temps, comme tu vas avoir plus d'âge, tu vas me dire, moi, ma personnalité, d'où je viens. Ça, on va dire la motivation qui va te permettre. Parce que tu vas trouver quelqu'un qui parle la langue de tes parents, la langue de ton origine, de ton pays. Toi, tu ne sais pas parler. C'est la honte.
Oui, c'est
j'ai
ça.
Dit, pourquoi moi, je ne peux pas comme lui. En fait, et avec ça, tu peux apprendre. Mais pas quelqu'un de petit qui est en train de se former, on va dire, qui est en train d'avoir sa personnalité, de voir. Il veut essayer. Et même t'as 40 ans, c'est jamais tard, tu peux le faire. T'as 50 ans. Mais quelqu'un de petit, tu peux pas lui dire, il faut le faire.
Mais c'est très juste ce que vous dites. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Moi, c'est mon histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, mais j'en ai marre. Chaque fois que je vois un Libanais, je vais dans un restaurant libanais, il me dit « Ah non, t'es Libanais, parle en arabe. » Alors, je sais commander. Je peux dire « Falafel », je peux dire « Shawarma », tout ça va. Mais passer ça, quand il commence à me dire « Il vient d'où tes parents ?» Tout ça, là, oh là là, je sais répondre un peu. Mais je sais plus, quand je vais au Liban, j'ai la honte parce que je monte dans un taxi, je sais dire trois phrases et puis après, je peux pas discuter. Et donc, c'est vrai. Et c'est des questions qu'on se pose aussi quand on grandit, de se dire « Bah, en fait, c'est quoi mon histoire et comment mon histoire ici, mon histoire en France, elle va avec mon histoire du pays d'origine de mes parents, du pays où moi je suis né, et comment tout ça, ça va ensemble ?» Et c'est très juste de le dire comme ça. Moi, je suis 100% français, je suis 100% libanais, et en fait, ça me va très bien. Et j'ai envie de pouvoir vous dire, je suis 100% arabe, je suis 100% français, ça me va très bien. Et il y a autre chose, je pense, qui est importante dans ce que vous dites, c'est que la langue, c'est la personnalité. Et c'est vrai que quand on parle plusieurs langues, on sait que dans chaque langue, on parle pas exactement de la même manière, on n'est pas exactement la même personne. Et moi, je sais que, en espagnol, je suis beaucoup plus direct qu'en français. Jamais j'oserais commander en France au restaurant comme je commande en Espagne. Et en arabe, comme c'est une langue que je maîtrise pas très bien, je sais pas très bien qui je suis. Et ça, pour moi, ça a été longtemps un truc de démotivation pour apprendre l'arabe. C'était que j'avais l'impression d'être idiot. J'avais l'impression d'être toujours comme un enfant. Voilà. Et ça, c'est énervant quand on grandit parce qu'on n'a pas envie d'être traité comme un enfant, on a envie d'être traité comme un adulte. Et surtout dans un milieu professionnel et tout ça, en travaillant, c'est pénible. Et ça, je trouve que c'est très juste. Et je pense que beaucoup de gens, les gens qui parlent plusieurs langues, ils savent que plusieurs langues, ça veut dire facette de la personnalité et que c'est une richesse, que c'est pas un inconvénient. C'est pour ça qu'il faut jamais dissuader les gens qui parlent une langue de parler leur langue, parce qu'en fait, c'est l'expression d'une richesse pour soi-même, mais aussi pour les autres.
La langue arabe, on ne la trouve pas dans n'importe quel collège. Moi, j'ai une amie, et elle a voulu que sa fille apprenne. Et c'est vrai que, par exemple, dans le 92, c'est le seul collège qui enseigne l'arabe. Donc la question aujourd'hui, c'est pourquoi on attend, enfin, je ne sais pas, je me pose la question. Pourquoi on ne proposerait pas en deuxième langue?
C'est une très bonne question. Ça existe en deuxième langue. Ça existe aussi dans certains collèges en classe bilingue, c'est-à-dire avec le même nombre d'heures, par exemple, d'anglais et d'arabe. Alors, je ne crois pas que ça existe à Montreuil, mais ça existe ailleurs dans le 93, par exemple, à Aubervilliers, à La Courneuve. On voit bien qu'il n'y a pas forcément la volonté en France de créer plus de classes d'arabe. Donc, il y a, dans toute la France, il y a 150 profs. Il y a 14 000 élèves qui apprennent l'arabe, dont en fait 3 000 sont à Mayotte. Il y a des régions entières de France où il n'y a aucun cours d'arabe. Et en plus, ce qui est, les familles, c'est ce que je disais tout à l'heure, les familles sont parfois un peu réticentes à mettre leurs enfants dans ces classes. Par exemple, à Aubervilliers, il y a eu des parents d'élèves qui se sont mobilisés pour faire ouvrir des classes d'arabe. Ils ont écrit au rectorat et ils ont réussi dans 5 établissements, il y a maintenant des classes d'arabe. Mais quand les classes sont ouvertes, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits. Alors ils sont allés faire, ils ont mis des affiches, tout ça, machin, ils ont fait venir les gens. Il y a beaucoup de gens, des familles immigrées qui ont dit « Ouais, mais... » On n'est pas sûr. Moi, par exemple, mes enfants, ils sont déjà inscrits à la mosquée. Ça veut dire qu'il faut que je les enlève à la mosquée. Je les mets au collège. Mais au collège, peut-être l'année prochaine, la classe, elle va fermer. Comment je peux être sûr que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va y avoir les cours? Et puis, il y a des parents qui ont peur que si leurs enfants se retrouvent en classe d'arabe, ils vont être dans les mauvaises classes. Pendant longtemps, dans l'éducation nationale, il y avait l'idée que si on fait allemand, on va être avec les bons. Voilà. C'est moins vrai, je crois, aujourd'hui. Mais ça reste en tout cas dans la tête dans de la beaucoup tête. De parents, et les parents arabes en France sont comme tous les parents, hein, ils veulent que leurs enfants réussissent, et donc ils suivent un peu les mêmes stratégies scolaires. Et donc il y a à la fois du côté de l'éducation nationale un manque de volonté, pas beaucoup de motivation, certains proviseurs ou des directeurs d'établissement qui se disent bon, pas trop, pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de profs, et puis d'un autre côté des familles qui ne poussent pas forcément beaucoup. Et je pense qu'il y a certaines familles aussi qui se disent, si on pousse trop, ça va faire une mauvaise image. Ça renvoie un peu à ce que vous disiez. C'est-à-dire, si on imagine, vu la situation en France aujourd'hui, s'il y a une manifestation d'hommes arabes et de femmes qui portent le foulard en scandant des slogans en arabe, en disant « ouvrez-nous des classes d'arabe », il n'est pas sûr que ça ne se retourne pas contre nous. Et donc, ça, c'est aussi un problème. Ce n'est pas juste, bien sûr, mais je pense qu'il y a des gens qui se disent ça, qui se disent « bon, si on réclame trop fort, on risque de se reprendre une claque ». Et donc, c'est le signe aussi du fait qu'il y a sur ces sujets-là beaucoup d'ignorance, beaucoup de malaise. C'est très pénible, c'est pas juste. Mais voilà. Et du coup, ça fait cette conjonction d'éléments, fait qu'il n'y a pas beaucoup de classes qui ouvrent. Moi, ce que je conseille quand même aux parents, en général, qui ont envie que leurs enfants apprennent l'arabe, c'est de le dire. C'est de dire aux enseignants qui voient, c'est de dire au principal du collège ou au proviseur du lycée. S'ils sont élus parents d'élèves, de le dire aux autres élus parents d'élèves, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut que ces choses-là remontent. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas le temps forcément de s'en occuper, mais juste au moins d'en parler et de dire que c'est important et qu'on aimerait qu'il y ait des classes, et tout ça, je pense que c'est bien. Et puis après, il y a un autre point, mais ça, vous savez mieux que moi, mais globalement, en France, l'enseignement des langues, et bien sûr, on apprend l'anglais à tout ça, c'est bien, mais l'enseignement des autres langues, que ce soit l'arabe ou d'autres langues, on leur laisse assez peu de place. Il y a des langues qui étaient plus enseignées il y a 10 ans ou 15 ans dans l'enseignement public et qui aujourd'hui sont complètement passées dans le privé parce qu'il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus de classes qui ouvrent, etc. Et donc ça, c'est dommage. Et ce n'est même pas que pour l'arabe, c'est en général, l'enseignement des langues, c'est une bonne chose, c'est une richesse pour les élèves, c'est une richesse pour les établissements scolaires, c'est une richesse pour la société en général. Et donc ça, c'est dommage que ça arrive. Donc, tout ça regroupé fait que...
Le choix des langues, la carte des langues dans les établissements scolaires, elle est clairement politique. De toute façon, dès l'élémentaire, la LV1 obligatoire, c'est l'anglais. Il y a eu l'allemand pendant très longtemps, parce que c'est pareil, hein, c'est l'Europe. Il y a l'allemand, voilà. L'anglais, très très important. Ensuite, il y a toutes les LV2 qui sont quand même les langues plus importantes, hein, comme l'espagnol. On a de la chance d'avoir l'italien ici au collège. Le chinois, de plus en plus, ben voilà, c'est clairement économique, hein, la place de la Chine dans le monde, donc la place de la langue chinoise aussi dans les établissements scolaires. Donc c'est vraiment une question politique.
Il y a un côté un peu bizarre, parce qu'en fait, il y a aussi des campagnes politiques contre l'enseignement de l'arabe, avec beaucoup là aussi de stéréotypes racistes sur l'arabe, sur les arabes, etc. Et le paradoxe, c'est que c'est des gens qui disent « Ah, mais on ne peut pas enseigner l'arabe à l'éducation nationale, dans l'éducation nationale, parce que si on enseigne l'arabe, oulala, on ne sait pas ce que les gens vont apprendre. » Avec toujours le sous-entendu qu'enseigner l'arabe, ça veut dire quasiment enseigner le terrorisme, ce qui est fou, mais on entend ça. Mais du coup, les mêmes gens qui disent ça vont dire en même temps, « Ah, mais regardez tous ces enfants qui sont inscrits pour apprendre l'arabe dans les mosquées. » Comme si d'abord apprendre l'arabe à la mosquée, ça voulait dire qu'on allait devenir terroriste, mais c'est-à-dire ils veulent que personne n'apprenne l'arabe jamais. Et donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, l'arabe, c'est aussi une langue de France. C'est une langue qui est parlée en France, qui est partagée dans l'histoire de France, pas depuis plus d'un siècle et demi qu'il y a des immigrés qui viennent du monde arabe en France, par l'histoire de la colonisation, par l'histoire aussi des Juifs d'Afrique du Nord qui sont très nombreux en France à continuer à parler l'arabe encore aujourd'hui. Quand j'ai écrit mon livre, il y a eu de très nombreuses familles de Juifs d'Afrique du Nord qui m'ont écrit en me disant « Mais en fait, l'arabe, c'est aussi ma langue. » Des pieds noirs ou des enfants de pieds noirs. Je trouve que moi, je suis marié à une fille de pieds noirs. Le grand-père de ma femme, il parlait mieux l'arabe que moi. Et pourtant, il n'est pas arabe du tout. Et donc, c'est une langue qui existe en France. C'est une langue de France. C'est lié à notre histoire collective, cette langue. Et donc, c'est aussi ça. C'est aussi une bataille culturelle. Ça renvoie aussi à ce que vous disiez sur comment on fait là. Comment on donne aussi une image de la langue arabe, qui est une langue de culture, de musique, de poésie, de cinéma, d'histoire, et ça, c'est important. Et là aussi, l'éducation nationale a un rôle à jouer, pas seulement les profs de langue, mais par exemple, à l'Institut du Monde Arabe à Paris, ils reçoivent de nombreuses classes. Parfois, c'est les profs de maths qui viennent, parfois, c'est les profs d'histoire géo. Et tous les profs qui m'ont raconté ça, ils me disent, mais quand les élèves viennent, il faut, ils sont choqués. Parce qu'ils apprennent aussi, eux-mêmes, des morceaux de l'histoire du monde arabe qu'ils ne connaissent pas, qu'on n'enseigne pas forcément en France. Et ils se disent, ah ben, c'est aussi mon histoire. Et ça permet aussi des fois de recoller les morceaux. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la France, c'est un pays de plus en plus multiculturel. Il y a de plus en plus de couples mixtes. Il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur leur identité et sur comment la transmettre à leurs enfants, sur comment on peut être malien et français, vietnamien et français. Moi, je le vois, j'ai fait des dizaines de rencontres depuis la sortie du bouquin, dans des établissements scolaires, dans des bibliothèques, dans des salles de spectacle. Je vois les gens qui viennent me voir et en fait, c'est très divers. Des gens de plein de milieux sociaux différents, des gens de plein d'origines différentes qui se posent ces questions-là sur comment transmettre ça à leurs enfants. Parce que ce qui change, c'est que oui, il y a toute une vague de travailleurs qui sont venus dans les années 70-80, mais en fait, ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là, ils sont en train, maintenant, ils sont parents et ils ont eux-mêmes des enfants. Et donc, en fait, tout ça, ça fait des Français arabes ou des Français qui parlent Wolof, qui parlent vietnamien. Voilà. Mais en fait, c'est des composantes de la société française. Et ça, je trouve que c'est assez porteur d'espoir parce qu'en fait, voilà, ces gens-là, ils sont là, ils ne vont pas partir. Ils vont parler français, ils vont parler arabe, ils vont parler anglais, ils vont parler autre chose. Donc oui, je suis d'accord, on ne vit pas les moments les plus faciles.
Ouais, c'est trop
mais moi, je suis quand même optimiste. Ouais. J'espère que ça va se faire. Ouais. Et je pense aussi beaucoup autour de la question de la transmission, puisque ben, tous les gens qui ont des enfants, ou à fortiori des parents, se posent aussi ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce que j'emmène avec moi de mes parents, qu'est-ce que je transmets à mes enfants. Et là-dedans, ben, les questions culturelles, la langue, ce qu'on mange... Les choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, tout ça, bah ça occupe une place importante. Je crois que la langue dedans, c'est un truc pour moi, la langue arabe, c'est vraiment ma mère. C'est les chansons de Fayrouz, une chanteuse libanaise. Voilà, c'est tout ça, et donc en fait, c'est aussi mon imaginaire, quoi. Et je pense que ça fait appel à ça chez beaucoup d'entre nous, quand on pense à la langue de nos parents, bah, en fait, ça évoque aussi plein de choses. J'étais la semaine dernière à Clichy-sous-Bois, aux ateliers Médicis, il y avait un spectacle d'une comédienne qui chante une chanson d'Oum Kalsoum, donc une chanteuse égyptienne très très connue dans les années 50-60. Et qui elle est d'une famille juive tunisienne et elle raconte que sa mère chantait toujours cette chanson et donc c'est un spectacle autour de ça où elle parle de sa mère qui chante, voilà, c'est une très belle pièce de théâtre. À la fin du spectacle, on est à Clichy-sous-Bois, il y a des gens qui se lèvent dans la salle, il y a un premier monsieur qui se lève qui dit bah voilà, moi je suis soudanais, je viens de Darfour, moi aussi ma mère elle me chantait une chanson en arabe, je ne l'ai pas vue depuis 13 ans, j'aimerais en parler avec vous, il en parle. Deux secondes après, il y a une femme au premier rang algérienne qui se lève et qui dit voilà, moi... c'est cette chanson que j'ai toujours entendue en Algérie. Et comme vous, on faisait le couscous en grain à grain, comme elle raconte dans sa pièce de théâtre. Et donc, je crois que derrière ces questions de la langue, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans nos cœurs et, voilà, et qu'on a aussi envie de transmettre.
C'est ça. Les parents, il faut qu'ils parlent l'arabe à la maison.
C'est vrai, mais les parents, ils ont aussi leur histoire, leur rapport à leur pays, leur rapport à leur langue, à leur culture, et c'est vrai que la transmission, elle n'est pas toujours évidente, et toutes les questions qu'on est en train de poser, ça pose la question de l'exil, en fait, beaucoup, parce que finalement, toutes ces générations qui sont arrivées en France, d'immigrés, et là, je parle de tout le monde, hein, que ce soit des Portugais, des Italiens, des Sénégalais, des Maliens, je pense que c'est un peu le même vécu. La France, c'est un pays d'accueil, et un pays en fait, qui a eu des politiques, évidemment, des politiques d'assimilation, des politiques d'intégration, des politiques de... On a besoin d'ouvriers, mais on les prépare aussi à un retour. Les ouvriers vont venir, donc le rapprochement familial des enfants. Donc voilà, il y a des choses aussi qui sont politiques et qui échappent à des histoires qui sont individuelles, des histoires qui sont intimes. Et on subit parfois ces choix qui sont politiques. Et en effet, la question de l'exil, pour moi, elle est quand même fondamentale sur ce qu'on est en train de dire là. Et je pense que c'est une question qui parle à tout le monde, parce qu'on a tous cette histoire intime de nos langues et de notre culture et de ce qu'on nous transmet, mais voilà, on subit tous, en fait, voilà, le social, le politique et l'économique, qui fait que, oui, parfois on va choisir de transmettre, on va vouloir transmettre notre langue, et parfois on ne va pas y arriver.
Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi de venir enseigner au Collège de Nantimo. Il y a une association qui s'appelle Dulala, d'une langue à l'autre, qui nous a fait une formation sur... le plurilinguisme. Et moi, c'est aussi en suivant cette formation que j'ai essayé d'intégrer d'autres langues dans mes cours. Et alors après, je raconte une petite anecdote avec ton livre, La Ville, où quand j'ai lu le livre, il y avait un chapitre qui s'appelle L'Archoma. Et donc moi, je lis le chapitre, et ma mère me le disait souvent quand j'étais petite, « Non, Camille, tu sors pas comme ça, c'est l'Archoma, non. » Et je lis le chapitre, et puis on est en classe avec les élèves, ils sont en train d'écrire une chanson en espagnol, et puis ils me disent « Madame, on va devoir chanter au tableau. » Je dis « Oui, oui. » Et là, il y a un élève qui me dit « Non, madame, c'est l'Archoma. » Et je lui dis « Oh là 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 là, j'ai l'impression d'entendre ma mère qui me dit ça. » Et en fait, c'était drôle. « Ah bah bon, mais madame, vous savez ce que ça veut dire? Vous connaissez ?» Et je dis « Bah oui, oui, oui. » Donc en fait, c'est des petites choses où le politique peut ramener aussi la visibilisation de l'arabe comme tu l'as fait.
Non, mais les enfants, ils parlent un petit peu de tout. Ils disent des mots, tous les enfants. Hein. Ils disent, ouais, par exemple, quand je suis au service, au pain, il y a des enfants qui me disent « Je veux deux morceaux de Hobbes. »
Et voilà, je pense qu'il faut continuer à parler des langues, à les enrichir et à donner encore plus de place, en fait, à ces questions et à ces enjeux culturels.
Où sont nos histoires? On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires? On ne sait rien de nous.
Merci à toutes et tous d'être venus. C'est super intéressant.
Merci à vous toutes et tous d'être venus.
Merci beaucoup.
Sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. S'il est depuis des siècles, on fait tourner le manège. On voit pas la recette de nos empreintes dans la neige. Ils ont cassé la chaîne pour pas que l'on se rappelle. Pour pas qu'on se souvienne que nos aïeux étaient balèzes. Nos histoires authentiques, un détail dans leurs gros livres. Pour que l'Occident vive, toujours ce foie, je s'ocline. Et ce pays produit des tapots et